Bonjour tout le monde, c'est Imran de Radio U. Ce soir, je me rends au vernissage de l'exposition « Ce que soulèvent les racines ». C'est au Grand Atelier à Quimper. On peut y voir jusqu'au 2 novembre les créations des artistes Ludivine Renaud, Shulam Kim, Nel Plantard et Noura Naga, alias Noura Joy, qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu as 24 ans, tu es artiste, diplômé de l'École des Beaux-Arts de Quimper. Comment tu es arrivé aux Beaux-Arts ?
Je suis arrivée aux Beaux-Arts de Quimper, très spécifiquement, suite à un rêve prémonitoire. Ça va être une histoire très cool à raconter à la radio. J'avais rêvé la veille, j'avais postulé à tous les Beaux-Arts de Bretagne, je rêvais d'aller aux Beaux-Arts de Rennes. Et puis pendant ce rêve, j'étais prise que à Brest et à Quimper, et je choisissais Quimper, et ça se passait mais alors super bien. Et puis le lendemain matin, j'ai été prise qu'aux Beaux-Arts de Brest et de Quimper. Et du coup, je me suis dit, bon, c'était à l'époque où je faisais encore des rêves prémonitoires, donc je me suis fait confiance. Ça a été plutôt facile et j'ai jamais regretté.
Parce que tu es pas de Quimper.
Je suis de Nantes. Et j'avais fait les concours pour les Beaux-Arts de Nantes et ça s'était très mal passé avec des propos homophobes de la part des profs.
D'accord. Bon. Alors, tout au long de ton parcours aux Beaux-Arts, tu as façonné ton travail créatif. Comment tu le définirais aujourd'hui ?
Je dirais que je fais de l'art pour soigner, pour me soigner moi en tant que personne en situation de handicap, pour soigner les autres et pour soigner le monde. En tout cas pour apporter du soin, de l'attention, de la douceur et en même temps ça peut aller totalement à l'encontre de ce qu'on voit de moi en dehors de ma pratique plastique puisque je suis militante et que je suis pas... Pour beaucoup de gens, en fait, le militantisme, c'est pas relié à la douceur. Pourtant, être dans le soin, c'est militant. C'est profondément militant. Et être capable de prendre soin des autres, je pense que c'est un truc qu'on oublie souvent dans le militantisme, mais qu'on aurait tout intérêt à réintégrer dans nos milieux, parce qu'on est nombreux à faire des burn-out militants, on est nombreux à vivre des dépressions. À souffrir d'éco-anxiété, etc. Et je pense vraiment que dans nos collectifs, si déjà on arrive à retrouver, tu vois, l'essence même qui fait que qu'on s'est mis dans, qu'on s'est mobilisé tous ensemble dans ces milieux-là, ça irait vachement mieux. Et tu vois, en fait, là dans ma pratique, c'est un peu ça qui ressort, c'est qu'il y a un côté politique et poétique à la fois.
Est-ce que c'est pour ça que ton compte Instagram s'appelle noura.joy ?
Non, c'est encore une histoire.
Rien à voir.
Mais alors oui, évidemment que prenez la joie quand on est militant, prenez la joie militante, ça devient un concept en ce moment, on en entend parler un peu de partout, c'est hyper intéressant, enfin, je veux dire, évidemment ça m'intéresse, mais en l'occurrence c'est une tata de cœur qui m'appelait comme ça quand j'étais Noura Desi, Noura Joy elle m'appelait, donc voilà, donc, c'est resté, au début je m'appelais Ponky Plum parce que je me trouvais un peu punk, et puis bon bah, je pense que tu m'as devant toi et tu peux constater que je ne suis absolument pas punk.
Donc, moins que d'autres, on pourrait dire.
Donc j'ai arrêté de m'appeler Plum. Plum parce que c'était la prune et c'était la couleur de cheveux que j'avais à l'époque quand je me faisais des couleurs. Voilà, donc Noura Joy, c'est une bonne manière de ramener la joie militante dans mon nom à moi. Et je ne m'appelle pas Noura Naga, je ne me fais pas appeler Noura Naga en tant qu'artiste puisque je ne veux pas porter le nom de famille d'un homme. J'essaie d'aller à l'encontre un peu de ces héritages culturels qu'on a tendance à ne plus remettre en question du tout parce qu'ils sont totalement normaux pour nous, normalisés. Mais en fait, les noms de famille ne peuvent venir que d'hommes. Donc même quand on porte le nom de famille de notre mère, c'est le nom de famille de son père.
On est dans une forme de déconstruction du système patriarcal. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est aussi une des facettes de cette exposition. Tu as parlé aussi d'éco-anxiété. Et donc cette exposition qui s'appelle « Ce que soulèvent les racines » a un lien avec cet engagement-là. D'où vient le titre « Ce que soulèvent les racines » ?
Eh bien, tout simplement en réunion juste avant, enfin pour programmer l'exposition, on était toutes les quatre avec Nel, Ludivine et Sue. Et en fait, c'est Nel qui a proposé ce titre et on a trouvé ça hyper puissant parce qu'effectivement, les racines, c'est ce qui se trouve sous terre. Et pourtant, elles emportent des choses, les racines. Et elles portent toute la forêt à elles seules. Et donc, quand je dis elles seules, c'est au pluriel, c'est-à-dire qu'elles sont quand même dans une interconnexion qui est assez impressionnante. Il y a énormément de bouquins et de documentaires, pour ceux que ça intéresse, qui traitent du sujet et qui démontrent à quel point les arbres sont capables d'une connexion entre eux, d'un vivre ensemble qu'on pourrait vraiment, vraiment... dont on pourrait s'inspirer, vraiment, en tant qu'humain.
Donc il y a deux notions. Moi, je vois la notion de soulèvement et la notion de racine qui peut renvoyer éventuellement avec cette facette un peu écologique. Et donc, dans la façon dont tu as de définir cette exposition, tu parles du mouvement écoféministe. Comment l'écoféminisme est présent à travers ces œuvres ?
Alors, l'écoféminisme, il est présent sous plein de prismes différents. C'est une pensée qu'on essaie, nous, de se réapproprier aussi. C'est ça qui est intéressant. Donc, Siou, par exemple, à travers ses peintures, elle va vraiment travailler autour de la douceur et de à quel point la douceur, c'est un acte militant. À quel point la douceur, la tendresse, l'amour, c'est des choses à revaloriser pour, justement, militer contre cet asservissement constant qui est perpétué par des systèmes oppressifs, capitalistes et patriarcales. Ludivine, elle travaille beaucoup autour du deuil et elle va vraiment s'intéresser à tout ce qui va toucher comment est-ce qu'on vit avec les vivants et comment est-ce qu'on vit avec les défunts. Et comment est-ce qu'on vit également avec la perte des écosystèmes avec lesquels on vit, la perte des êtres vivants avec lesquels on vit. Et donc tout ça, tu vois, c'est aussi écoféministe. Nell, elle travaille beaucoup autour de tout un raisonnement, en fait, très féministe et autour du médical. Comment est-ce que le médical a fait du tort aux femmes? Et comment est-ce que le transhumanisme peut, à lui aussi, être soit une libération, soit complètement l'inverse, un asservissement, encore une fois, ça dépend du point de vue dans lequel on se place, etc. Et moi, pour le coup, j'ai un écoféminisme qui se base sur mon handicap et qui, du coup, va vraiment travailler sur comment est-ce qu'on vit en collectif dans un monde en plein effondrement, comment est-ce qu'on arrive à survivre, à trouver sa place dans ce monde-là, en tant que femme, en tant que personne en situation de handicap, en tant que personne queer. Enfin, voilà, il y a tout un, tu vois... mais c'est des réalités qui sont extrêmement politiques et qui sont extrêmement actuelles. Et tu vois, l'écoféminisme, en fait, il passe par toutes ces facettes-là et il est exprimé de différentes manières dans nos travaux. Et pourtant, c'est très complémentaire.
Comment ça s'est passé, en fait, la collaboration? Parce que vous n'avez pas forcément la même manière de travailler, vous travaillez peut-être pas sur les mêmes matériaux. Donc ça a dû être aussi un vrai travail collectif de comprendre comment constituer l'exposition.
Alors, c'est hyper drôle que tu soulèves ce sujet-là parce que, justement, on a vraiment galéré. On a vraiment galéré. On a vécu une super expérience, justement, parce que on a... nos travaux, on les a toutes faits de manière individuelle. C'est-à-dire que, voilà, on avait toutes cartes blanches, on s'en parlait régulièrement. Moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça, moi, je suis là-dessus en ce moment. On se montrait nos travaux en cours, etc. Là où ça a été effectivement très complexe, c'était l'accrochage. C'était d'accrocher tout ensemble, avec nos visions totalement différentes de l'espace d'accrochage, de comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on perçoit l'espace d'accrochage, comment est-ce qu'on vit dedans et quels sont les codes aussi qu'on a, les codes d'accrochage. Donc certaines d'entre nous avaient des codes beaucoup plus, je dirais, muséaux. Et puis d'autres avaient des codes de galerie ou de marché, de petits marchés de créateurs. Et puis il y avait aussi tous ces codes de est-ce qu'on a envie que le public se balade comme il le souhaite? Est-ce qu'on a envie de nous guider le public? Enfin voilà, donc c'était vraiment un juste milieu à trouver. Je crois qu'on a réussi à le trouver. Je suis assez fière de ce qu'on a réussi à faire. Mais c'est vrai qu'en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on traite d'écoféminisme, et l'écoféminisme, c'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble en inter-espèces et dans un monde en plein changement. Et donc, on l'a vraiment vécu dans l'expérience de l'exposition. Ça, on l'a vraiment vécu dans notre chair, quoi. Ça a été très, très, très bouleversant parfois. Et en même temps, voilà, là, le vernissage, c'est une vraie réussite. Donc, tu vois, tout est Tout est bien qui finit bien, c'est un peu ça le...
Tu as parlé du fait que tu avais fait un travail très personnel en fait dans la création des œuvres. C'est quoi ton rituel de création en fait?
J'adore, elle est trop bien cette interview. Alors déjà je tiens à dire qu'on a toutes fait des travaux très très personnels et très intimes. Pour le coup on a vraiment des pratiques qui sont toutes les quatre très, très intimistes. Mon processus de création, c'est surtout de me réveiller un matin et d'avoir la boule au ventre et de me dire « Putain, faut que je parle de ça parce que j'en ai trop marre, parce que ça me bouffe, ça me gâche la vie. » Donc je suis une personne torturée finalement.
Et comme tous les artistes.
Non, c'est chiant parce que voilà, on perpétue un mythe qui est absolument faux. Mais moi, en l'occurrence, oui, peut-être que je le suis un peu. Et du coup, ben, dans ces cas-là, je vais être en période d'obsession. Je vais me prendre la tête à me dire mais comment je peux parler de ça, comment je peux parler de ça, et à qui je veux parler de ça, et comment je veux en parler. Et après, une fois que toute cette période est passée, et ben, les matières que j'ai sous la main, puisque je travaille essentiellement à partir de recyclage et de matériaux de seconde main, à partir des matières que j'ai sous la main, je crée, ou alors si j'ai vraiment une image qui arrive dans ma tête et que je me dis c'est ça qu'il faut que je fasse, je vais toujours, toujours, toujours aller les chercher de seconde main. Je vais toujours, même si ça prend des mois ou des années, j'ai des travaux qui ont été, des projets qui ont été écrits il y a 2 ans et que j'ai fait que maintenant, que je ne fais que maintenant. Donc tu vois, c'est sur le très long terme et parfois sur le très court terme, j'ai appris à travailler beaucoup plus spontanément grâce aux Beaux-Arts. Donc tu vois, ma pratique, elle est hyper variée. Je me demande toujours quelle matière j'ai envie d'utiliser pour dire ce que j'ai envie de dire. Donc les matières, c'est secondaire pour moi. C'est après, je m'invente, c'est d'abord je m'invente mon histoire et je me pose des questions sur pourquoi est-ce que j'ai envie d'en parler et à qui j'ai envie de m'adresser dans mon travail.
Alors pour certaines personnes, ça peut paraître hyper impudique de présenter des travaux intimes et très personnels dans le cadre d'une exposition où littéralement le but est de montrer ce qu'on a créé. Comment tu vois ça? Quel est ton rapport par rapport à ça? Et est-ce que tu ressens une émotion particulière, par exemple ce soir, quand tu vois qu'au vernissage, il y a un certain nombre de personnes qui sont venues voir ce travail?
Alors moi, je suis vraiment pas pudique, mais vraiment pas quoi. Donc effectivement, je respecte la pudeur des gens et je fais très attention à ça. Je fais très attention, par exemple, j'ai une installation là dans cette exposition sur le cancer du sein de ma maman. Et j'ai bien fait attention pour la fiche médiation, donc la fiche que nous dont on se sert avec les filles pour parler au public, de mettre des trigger warnings. Donc je suis consciente, enfin je suis la première d'ailleurs à demander des trigger warnings, ça devrait être fait partout, au théâtre, au cinéma et dans la vie courante. Mais effectivement, c'est vrai que c'est important pour moi aussi d'essayer de montrer qu'en fait là, ce que je vis, c'est très loin d'être exceptionnel. Les gens qui sont en situation de handicap et qui notamment ont des maladies chroniques sont nombreux, nombreuses en France. Ils n'ont plus de subventions. Ils vont être obligés bientôt de vivre dans des conditions absolument affreuses parce que nos gouvernants ne sont pas capables de taxer les ultra-riches. Bref, donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout de, moi, en tant que minorité, me libérer un peu de ça. Par exemple, dans la communauté LGBT, on dit sortir du placard. Bon, bah voilà, on peut l'utiliser. Néanmoins, et ça, c'est important, j'ai tendance à aimer exposer dans des placards. Je me mets souvent dans des petits coins. Je cache mes travaux pour qu'ils pop un peu au bout du troisième, de la troisième visite de vernissage. Les gens disent « Ah, mais je l'avais jamais vu celui-là. » Bon, voilà. Je pense que c'est important de dire qu'on veut sortir du placard et c'est important de le faire. Et c'est important aussi de rappeler que le placard, ça peut être un lieu très réconfortant et que tout le monde n'est pas obligé de sortir du placard et qu'on a tous le droit de choisir où est-ce qu'on veut se placer et que mes travaux, à moi, vu qu'ils sont, c'est les miens et que j'ai pas à demander l'accord à n'importe qui pour les exposer, mais moi j'ai envie qu'ils expérimentent un peu tous ces, j'ai envie qu'ils soient tout autant dans la lumière et parfois dans des placards parce que c'est ça la vie, on n'est pas tout le temps sous les projecteurs quoi, et parfois on a envie de se recroqueviller dans son lit et on a totalement, et c'est ok, voilà, je vais dire comme ça, et c'est ok.
Tu parlais d'engagement militant, et évidemment, à travers cette exposition, il y a un combat personnel, on peut le dire comme ça. Selon toi, quel rôle doit jouer un artiste dans la vie culturelle, sociale de leur ville? Par exemple, toi, tu es très impliqué à Quimper. Tu fais d'ailleurs un service civique à l'association Tréteau Théâtre. Comment tu vois cette multitude de facettes sur lesquelles tu t'engages?
En fait, c'est hyper dur de répondre à ça parce que ça nécessiterait un débat de genre 5 heures. Parce que déjà, on n'a pas à dicter comment et ce que doivent faire les artistes, parce que sinon, on tombe dans une dictature. C'est juste l'opposé total de la liberté, de la liberté d'expression, qu'on prône quand même en France et qui est quand même assez importante, je pense, surtout dans ces temps troubles. Comment je vois mon rôle, en fait j'ai plutôt envie de répondre à ça parce que tu vois j'ai pas envie de répondre au nom des autres, moi comment je vois mon rôle, c'est que je me dis que j'ai cette compétence là, je me dis que les récits ont une importance mais absolument folle sur l'histoire avec un grand H, qu'ils façonnent l'histoire, qu'ils façonnent nos modes de vie, nos modes de pensée, nos manières de faire ensemble ou non. Et j'ai pas envie de laisser la place à d'autres, de raconter des histoires qui vont à l'encontre du vivre ensemble, qui vont à l'encontre de l'amour, du partage, de la joie. J'ai pas envie de laisser tous ceux qui prônent la peur et la colère et la haine prendre le dessus. Je veux pas leur laisser cette place-là. J'ai la possibilité, j'ai la chance de pouvoir parler, d'avoir une voix. J'ai la chance de pas avoir de pudeur, comme on l'a dit, et de pas avoir trop peur, ce qui est pas le cas de tout le monde. Et c'est vraiment, pour certains, c'est juste un exercice beaucoup trop compliqué et c'est totalement entendable. On a tous notre place sur Terre, on a tous notre place dans ce combat. Et moi, ma place, mais voilà, tu vois, là, tu dis que je m'engage beaucoup, c'est important de le rappeler que, en fait, c'est pas viable pour quelqu'un comme moi. Donc, en fait, tu vois, si ça se trouve, je m'engage beaucoup trop. Donc, tu vois, je sais pas si c'est vraiment si bien que ça de s'engager autant. J'ai fait un burn-out militant, j'ai fait une dépression. Je suis fragilisée par ce mode de vie qui nécessite que je sois tout le temps à l'affût, tout le temps présente partout parce qu'il se passe des choses partout en fait et qu'il y a trop à faire, il y a trop à dire. Donc j'irai pas jusqu'à prôner ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Moi, je ressens le besoin vital, mais je me sens pas vivre sans, je me sens pas vibrer sans. Je vois pas d'intérêt à ma vie sans, voilà, ça va jusque là, tu vois. Après, est-ce que c'est sans ou pas, là, franchement, la question, elle se pose, tu vois.
L'exposition est souvent vue comme l'aboutissement d'un travail. Là, donc, tu es arrivé au bout de ce projet. Est-ce que tu as d'autres œuvres sur lesquelles tu travailles en ce moment ou d'autres directions vers lesquelles tu souhaites aller?
Oui, alors déjà, moi, l'exposition, je le vois pas comme l'aboutissement d'un travail. Le nombre d'expos que j'ai fait, j'en ai fait que 7, mais ce que je veux dire, c'est que le nombre de fois où j'ai exposé des trucs et où en fait, 2 ans plus tard, je réexposais la même pièce, mais complètement différemment parce que je l'avais retravaillé entre temps et j'ai aucune gêne là-dessus. Enfin, moi, mon travail, il est en perpétuelle évolution comme mon être, quoi. Enfin, genre, je suis humaine et c'est comme ça que ça se passe chez les humains en théorie. Donc, on n'est pas figé et c'est important de l'assumer selon moi. Il y a notamment un travail qui s'appelle Chevreuil, qui est un coussin au sein duquel il y a une aquarelle en fait et qui traite de du pouvoir de la métamorphose et de à quel point ça pourrait être une voie vers un monde un peu plus sain si on pouvait, à la manière de la BD Epiphania, se métamorphoser entre êtres humains, végétaux, animaux, minéraux, et qu'en fait finalement ça nous remettrait tous à la même échelle. On serait tous des bidules, des machins bidouillés et complètement complètement fusionnés et tu vois, ça c'est un travail en cours et donc a priori c'est le début d'une série, j'en ai qu'un pour l'instant, donc tu vois potentiellement il va y en avoir, je sais pas, 10 derrière. Et ce qui est sûr, c'est que dans la continuité de mon travail, l'écoféminisme c'est que le début pour moi, enfin je découvre ce mouvement depuis seulement 2 ans et c'est hyper foisonnant en ce moment. C'est vraiment... c'est un mouvement qui, malheureusement... Heureusement, malheureusement, je ne sais pas comment le dire, mais qui, c'est à la mode. Voilà, c'est à la mode avec les sorcières, tout ça.
Et dans l'air du temps, parce qu'il y a aussi un certain nombre de remises en question de l'état des choses actuelles, c'est-à-dire un monde capitaliste et patriarcal.
Ouais, non, mais totalement, totalement. Et parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils comme les réseaux sociaux où, en fait, il y a des messages hyper militants, hyper radicaux qui peuvent être passés, ce qui ne pouvait pas être le cas à la radio et dans les journaux il y a 50 ans. Enfin, je suis pas historienne, donc c'est ce que je suis en train de dire, ça se trouve, c'est de la merde. Hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une liberté d'expression qui est assez folle et qui fait beaucoup de tort et beaucoup de bien à la fois. Enfin, c'est à double tranchant. Mais sur les réseaux sociaux, on a vraiment... je pense que toutes les filles de ma génération, toutes les personnes de ma génération ont été sensibilisées au féminisme et à l'écologie via les réseaux sociaux. Donc, c'est clairement, oui, t'as raison, c'est dans l'air du temps. Et c'était la suite logique de ce qui s'est passé pendant MeToo. Enfin, tu vois, en fait, c'est la continuité de tous ces événements qui paraissent encore hyper radicaux pour certains, mais qui, voilà, c'est l'histoire qu'on est en train de dessiner, tu vois. Donc, voilà, j'ai juste pas envie que ce soit un mouvement qui soit réapproprié par des gens qui le comprennent mal et qui l'utilisent pour faire de la politique politicienne. Voilà, c'est juste pour ça que je disais ça.
Donc les réseaux sociaux peuvent permettre l'expression artistique.
Ouais, dans une certaine mesure, ça c'est aussi c'est à nuancer, parce qu'en fait ils sont détenus par des ultra riches et que forcément à un moment donné, ben la liberté d'expression c'est normalement il n'y a pas quelqu'un qui peut détenir ta liberté d'expression, qui peut détenir ta parole, qui peut ou non la supprimer. Bon voilà, donc en fait tu vois, en fait la liberté d'expression c'est un débat hyper long, mais un jour on débattra de ça si tu veux quand tu feras des plateaux débats.
On a soulevé beaucoup de débats, mais ça tombe bien parce que ce soir le vernissage c'était ce que soulève les racines. Voilà pour la conclusion. L'exposition Ce que soulèvent les racines est à voir au Grand Atelier, 17 rue du Frout à Quimper, jusqu'au 2 novembre. Et on peut te suivre sur Instagram, c'est noura.joy. Merci beaucoup, Noura.
Merci beaucoup.
C'est vous qui le dites. L'émission d'info locale. Radio-Ulule.